qu'Amélie et Marion, elles essayent de trouver des solutions pour que vous arriviez mieux à être compris et à dire ce que vous avez envie de dire.
Parce que Elisa, elle a beaucoup de mal à exprimer tout, en fait. Donc là, que quelqu'un vienne la voir et lui demande, lui pose juste la question de comment elle peut s'en sortir, et ben déjà rien que ça, quoi, c'est du positif, quoi.
Et c'est Marion Doen qui est avec nous en plateau, entre autres, qui va peut-être nous expliquer quel est ce son que l'on vient d'entendre à l'instant.
Alors oui, c'est un extrait d'un film qu'on a fait de témoignages des personnes ayant participé à la recherche. Donc à la fois des personnes concernées, donc des personnes avec trisomie 21, puis aussi leurs parents, leurs proches, des professionnels aussi, de la prise en charge. Donc un film qu'on a réalisé à l'occasion des rencontres de la FIRA en mars 2016 et qui est visible sur notre site internet.
Voilà, on est sauté un peu dans cette émission directement avec l'extrait. La recherche dont on parle, c'est Communiquons ensemble, co-construction de l'espace communicatif multimodal entre personnes porteuses de trisomie 21 et personnes ordinaires. C'est pour ça qu'on s'est dit, pour les auditeurs, on va mettre un son plutôt en entrée d'émission, ce sera plus simple. Le titre est un peu compliqué, mais on va voir avec nos invités tout de suite qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas si compliqué. Et donc Marion Doen est avec nous, merci. Et à ses côtés, il y a Amélie Rocher-Capellan. Bonjour, merci d'être là aussi. Bonjour. Elle est déjà endormie. Et Sophie Lafont et Franck Lichat de l'association Ariste. Marion et Amélie, vous êtes acteurs dans ce projet de recherche, enfin qui est maintenant une recherche aboutie. Vous êtes pour le côté recherche, chercheuse à l'université de Grenoble. Alors, cet extrait de film, on l'a vu, un film réalisé à l'occasion des rencontres annuelles de la FIRA qui ont eu lieu en mars. On entend tout de suite cette petite voix hésitante. C'est au cœur du projet de recherche. L'idée, c'était voilà, ces petites voix hésitantes de personnes avec lesquelles on a parfois du mal à communiquer. C'est qui ? C'est des personnes porteuses de trisomie 21, mais pas que. C'est aussi peut-être plus largement des personnes avec des déficiences.
Alors là, Amélie, pour le coup, dans l'extrait du film, en fait, c'est une maman qui explique les difficultés communicatives de sa fille. Alors le projet, il est parti effectivement du constat que effectivement, il y a de nombreuses personnes qui ont des gros problèmes de communication, en particulier les personnes avec trisomie 21, et que ces problèmes, en fait, souvent sont liés à la parole. Parce que la parole, c'est un système de communication qui est très compliqué pour de nombreuses personnes. Et du coup, nous, à la base, je suis chercheur au CNRS et je travaillais sur le contrôle moteur de la parole. Et Marion Doen, donc qui est ma collègue et qui est maître de conf à Grenoble INP, travaillait elle aussi sur la parole et sur la perception multimodale. Et du coup, on s'est dit que sur la base des travaux de recherche un peu fondamentales qu'on faisait, on pourrait essayer d'améliorer la condition de ces personnes, donc de ces personnes avec trisomie 21, et peut-être qu'ensuite, ça pourrait aussi servir à d'autres personnes, comme des personnes souffrant par exemple d'Alzheimer ou d'autres types de pathologies.
Donc la communication hein, qui est au cœur de ce projet, parce que la communication pour ces personnes atteintes de trisomie, porteuses de trisomie, comme pour les personnes ordinaires, c'est la base de l'intégration sociale. Et la spécificité qu'on peut rappeler et que vous aviez très bien expliqué dans l'émission la dernière fois qu'on vous a reçu, c'est que quand on s'adresse à des personnes porteuses de trisomie 21, on va souvent avoir des gros défauts, si on peut le dire comme ça, on va prendre des mauvais plis. Marion, peut-être là-dessus ?
Alors oui, effectivement, ce que montre un certain nombre d'études, c'est que donc il y a plein de choses déjà. Bah, quand on communique avec ce genre de personnes, il peut y avoir parfois chez certaines personnes ordinaires un peu un malaise, etc. Il y a aussi souvent des choses qu'on fait de façon un petit peu spontanée, sans penser à mal, qui sont par exemple de répondre à la place de la personne quand elle met un peu de temps à répondre, au lieu de juste laisser le temps, juste parce que nous on est habitué quand on discute avec quelqu'un à jamais laisser de blanc. Ça fait un peu peur aux gens qu'il y ait des blancs dans la conversation. Toujours leur faire des suggestions au lieu de les laisser eux formuler ce qu'ils ont envie. Donc voilà. Et justement, alors, je sais pas, justement, on peut peut-être repasser un autre extrait là-dessus sur le fait que c'est important de laisser du temps, de leur laisser du temps pour s'exprimer.
Alors on écoute le petit extrait tout de suite.
Parce qu'on parle vite. Du fait qu'on parle vite, on a plein de choses à dire. Donc on parle vite, qui fait qu'on n'articule pas assez. Donc le secret de tout ça, c'est le temps en fait. Il faut nous consacrer plus de temps en fait.
Voilà, un petit extrait à nouveau pour nous mettre dans l'ambiance, parce que malheureusement, nous n'avons pas de personnes porteuses de trisomie 21 autour de ces micros, mais on a des personnes qui leur sont extrêmement proches, parmi elles Sophie et Franck qui sont avec nous de l'association Ariste. Un mot aussi de votre part, l'un de vous, pour nous expliquer, pareil, hein, en quelques minutes, mais pourquoi l'Ariste a été particulièrement impliquée dans ce projet de recherche et pourquoi c'est extrêmement important pour vous en tant que proche de faire une recherche là-dessus, sur la communication.
Alors depuis une trentaine d'années, même un peu plus de 30 ans, l'Ariste s'est investi dans ses travaux de recherche, mais très modestement, puisque nous n'avons que très peu de moyens. Et chaque fois qu'un projet nous est proposé, pour peu qu'il intéresse nos jeunes, on l'accompagne. Donc là, s'agissant de la communication, très clairement, Amélie et Marion ont ciblé un élément de l'insertion sociale qui est déterminant. Si on communique pas, ben on peut pas s'insérer. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé d'un aboutissement. Moi, j'ai envie de dire que ces travaux de recherche sont sans doute vont nous permettre d'avancer. Vont permettre à nos jeunes, effectivement, de prendre conscience peut-être d'une place qui va grandissante. Ceci étant, je pense que leurs travaux sont très loin d'être aboutis et terminés, et que voilà, on n'a encore pas guéri la problématique de la communication des trisomiques en France.
Non, mais on va aider à ce que ça se passe mieux. Voilà. Ouais, on va en savoir plus dans un instant, mais je pense que les outils qui sont développés dans le cadre de cette recherche vont quand même permettre d'aller plus loin. Sophie Lafont, de l'Ariste aussi, un mot. Vous aviez identifié cette problématique de la communication. C'était vraiment une demande des proches, des parents, de personnes porteuses de pouvoir travailler sur ce sujet.
Oui, effectivement. Après, si je prends ma casquette de maman, je vis avec mon fils, il a 23 ans, qui demande beaucoup d'autonomie, qui demande beaucoup de vivre dans la société. Et on sent bien que la communication, ça reste un frein, en fait, pour lui. Pour créer des liens. Et quelquefois, c'est une frustration aussi, parce qu'il n'a pas su exprimer quelque chose, et du coup, en panique, et ben, il préfère se taire. Et bon, ce n'est pas souvent non plus qu'il se tait, mais ça lui arrive. Et donc, effectivement, c'est des travaux qui aujourd'hui se terminent, mais c'est le début sûrement pour plein de choses qui pourront les aider dans ce domaine.
Et en tant que parent, vous aviez déjà effectivement identifié toutes ces problématiques, tous ces mauvais réflexes, ces mauvais modes de communication. J'imagine que vous-même, avec vos enfants, c'est pas évident de leur laisser le temps de s'exprimer, de pas interpréter ou surinterpréter ou mal interpréter ce qu'ils sont en train de dire. C'est des réflexes un peu humains, et on doit avoir du mal à identifier ces mauvais réflexes.
Effectivement, en juin dernier, où Marion et Amélie ont présenté les résultats, moi personnellement, j'ai pris conscience qu'effectivement j'allais peut-être un peu trop vite quelquefois, et depuis je fais très attention à ce temps, lui laisser le temps de répondre, lui laisser le temps de s'exprimer.
Et alors on l'a vu, les troubles de la mauvaise communication qu'il y a entre les personnes ordinaires et les personnes porteuses de trisomie 21, c'est un sujet qui n'avait pas encore été vraiment étudié, en tout cas pas de façon scientifique, comme dans le cadre de cette recherche. Est-ce que Marion ou Amélie, vous pouvez expliquer aux auditeurs, là encore, assez brièvement, juste pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'avant, comment s'est passée la recherche? Il y a eu évidemment énormément de personnes porteuses de trisomie impliquées, très impliquées au cœur de la recherche. Amélie.
Oui, alors, du coup, la recherche, elle part effectivement du constat qu'il n'y avait pas beaucoup, comme vous l'avez un peu dit, il n'y avait pas beaucoup de recherches qui s'étaient spécifiquement intéressées à la communication des personnes avec trisomie 21, surtout en France, parce qu'il y a quand même des travaux qui ont été faits beaucoup aux États-Unis et en Angleterre. Et du coup, la première chose qui était importante pour nous, c'était aussi de faire connaître ces avancées en France, puisque les articles en Angleterre, aux États-Unis sont publiés en anglais, donc les familles n'ont pas forcément accès. Et du coup, quand on a mis en place le projet, on a très vite contacté l'Ariste et on a construit le projet avec eux. Et du coup, ce qui nous a permis notamment d'impliquer les jeunes de l'Ariste, c'est essentiellement les jeunes de l'Ariste qui ont été impliqués dans le projet. Donc c'est pas un projet qui a impliqué des centaines de personnes avec trisomie 21, c'est un projet qui est quand même resté très local en termes de population impliquée. mais qui nous a permis à nous de vraiment développer une relation un peu, on va dire, privilégiée avec avec ces personnes avec trisomie 21. Il faut savoir que notamment un des problèmes des personnes avec trisomie 21, c'est comme beaucoup de personnes avec déficience intellectuelle, elles ont besoin de temps et elles ont besoin de temps pour être en confiance aussi. Et elles ont besoin de temps encore plus pour être en confiance avec les chercheurs. Donc il faut savoir, quand on fait de la recherche avec ces personnes, le chercheur doit s'adapter parce qu'on peut pas les accueillir comme on accueille des personnes tout venant, les mettre devant la tâche et puis leur faire les choses comme ça. Parce que si on fait ça, en fait, souvent elles vont être bloquées et donc on va passer à côté de leur vraie capacité. Donc nous, on a pris un gros temps en fait sur notre projet pour essayer d'adapter nos comportements à nous, à ces personnes. Donc d'abord, on s'est filmé quand on leur parlait, ce qui m'a permis à moi de me rendre compte que je parle beaucoup trop vite et qu'elles ne me comprenaient pas quand je leur expliquais les consignes des expériences. Donc eh ben, on a dû reprendre notre copie pour la fois d'après refaire des entretiens pour leur expliquer plus lentement. On a dû aussi faire tout un travail de bibliographie parce qu'en fait, on a pas grand-chose en France là-dessus pour adapter les formulaires de consentement quand on participe à une recherche. Il faut que la personne comprenne ce qu'on va lui demander de faire pour qu'elle puisse donner ce qu'on appelle son consentement éclairé. Or, avec des personnes avec déficience intellectuelle, ben, ça demande d'adapter les supports. Ça veut dire d'ajouter des images, de leur montrer les salles, de prendre du temps avec elles. Donc, souvent, ben, ce qu'on fait en 15 minutes avec une personne ordinaire, on va prendre une heure avec une personne avec trisomie 21, voire on va la faire revenir d'abord. On va la faire venir une fois au laboratoire pour lui montrer, pour discuter, et puis on fera l'étude après avec elle. Et on a des anecdotes assez intéressantes comme ça avec, par exemple, des évaluations d'orthophonie. Donc, on a des étudiantes en orthophonie qui ont fait des évaluations de certaines personnes. Et nous, quand on a vu les évaluations, on s'est dit, mais non, mais c'est pas possible, ça correspond pas, c'est pas cette personne-là, quoi. Juste parce qu'en fait, la personne était en état un peu de stress émotionnel et que du coup, ben, elle se ferme, en fait. Et que du coup, c'est pour ça que pour vraiment faire une recherche qui donne une vraie idée des capacités de ces personnes, il faut prendre tout un temps d'adaptation, de préparation, etc.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour en plateau avec nos invités Marion Doen, Amélie Rocher-Capellan, Sophie Lafont, Franck Lichat pour l'ARIST. On n'a pas précisé d'ailleurs l'ARIST, hein, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est l'association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques 21. Même si j'imagine que nos auditeurs avaient compris que s'agissait de trisomie 21. On écoutait à l'instant Amélie, on va reprendre avec vous Amélie sur le cadre de cette recherche scientifique, sur les possibilités de communication entre personnes porteuses de trisomie et personnes ordinaire. Disiez à l'instant, c'était un peu plus compliqué que pour une recherche lambda. Il faut du temps, il faut mettre les personnes trisomiques 21 en confiance, il faut qu'elles aient pris le temps de vous connaître et d'avoir envie de vous parler, et de vous parler vraiment et pas de finalement servir un discours qui serait pas vraiment le leur.
Donc, ce dont j'ai parlé avant, en fait, c'était essentiellement l'intégration des personnes avec trisomie 21, enfin l'implication des personnes avec trisomie 21 dans la recherche, qui en fait est vraiment, qui a été un gros aspect du projet qu'on avait vraiment sous-évalué nous au départ, puisque même si on a l'habitude, enfin moi j'avais l'habitude d'interagir avec des personnes avec trisomie 21 personnellement, mais du coup c'est vrai que dans un cadre de recherche il y avait un gros décalage entre ce à quoi je m'attendais et puis ce face à quoi on se trouvait. Donc ça, ça a été une grosse partie du projet. Du coup, cette partie-là, Marion reviendra dessus, mais on l'a développée dans l'axe du projet qui s'appelle communiquer, c'est échanger. Et notre projet, à la base, il était construit du coup autour de quatre axes. Un premier axe qui est communiquer, c'est parler, puisque bon, quand on communique, d'abord, on le fait par la parole. Et comme on l'a dit un petit peu avant, la parole, c'est un gros problème pour les personnes avec trisomie 21. Donc, notre premier objectif, c'était un peu de travailler sur leur parole en tant que chercheur sur la parole. Le deuxième axe, c'était communiquer, c'est gestualiser, puisqu'en fait, si on utilise essentiellement la parole, on utilise aussi nos mains pour communiquer, notre corps, nos expressions du visage. Et du coup, on a travaillé avec Marion dans la suite de travaux qu'elle avait fait chez des enfants avec des troubles spécifiques du langage sur la gestualité chez l'enfant avec trisomie 21, la gestualité communicative. Et ensuite, on avait un autre axe qui était communiquer, c'est interagir, et qui recoupe un peu déjà tout ce qu'on a dit avant en termes de résultats, qui est que, ben oui, quand on interagit avec une personne avec trisomique, il ne faut pas que demander à la personne de s'adapter, il faut aussi s'adapter soi, il faut lui laisser le temps de répondre aux questions, il faut lui fournir des aides aussi pour qu'elle amorce ses questions, puisque dans les analyses de résultats qu'on a fait, enfin d'analyse de conversation entre personnes avec trisomie 21 et personnes ordinaires, on s'est rendu compte que les personnes avec trisomie 21 posent très peu de questions. et que souvent elles font si peu de ce qu'on appelle des feedbacks, donc elles relancent peu la conversation en faisant ok, ça elles le font très peu, et du coup très vite ça va créer des dysfonctionnements dans l'interaction qui sont en fait, on peut dire, en deçà du langage. En fait, c'est pas lié à leur capacité intellectuelle, c'est vraiment des problèmes de dynamique d'interaction entre personnes.
Là, voilà. Est-ce que les parents de Larisse, Franck, Sophie, vous aviez aussi envie d'interagir avec les chercheurs en leur disant, moi, c'est ces problématiques-là que j'ai avec mes proches, avec mes enfants, c'est que effectivement, je leur laisse pas le temps, je vais trop vite. Ou est-ce que vous les avez aussi orientés, ou vous avez plutôt été en retrait de cette recherche en laissant les chercheurs faire leur travail de leur côté avec les...
Je crois que comme Monsieur Jourdain, en fait, on pratiquait, mais sans le savoir, c'est-à-dire que toutes ces problématiques-là, on ne les avait pas forcément identifiées, mais elles ont été révélées par les travaux d'Amélie et Marion, et comme étant une nécessité à prendre en compte, nous, au quotidien. Forcément, pour ce qui me concerne, j'en avais pas pris conscience avant. Et ça a été vraiment formalisé par leurs travaux.
La révélation. C'est vrai que Marion va nous dire dans un instant, mais qu'est-ce qu'on... Alors oui, on a envie de dire c'est quoi les résultats. Bon, c'est un peu, la question est évidemment un petit peu facile à poser, mais que ce soit sur la voix, la gestualité, l'interaction globale, comment est-ce que vous avez agi? Vous avez dit on va démontrer telle ou telle chose. Vous avez finalement observé, vous avez dit ah, c'est à ce moment-là ici qu'il y a des freins et des problématiques. Comment ça s'est passé? Et pour répondre à cette question, on va d'abord écouter un petit extrait à nouveau de film.
On va t'enregistrer pendant que tu parles. Et en fait, on va te demander de répéter. Ça aide bien regarder la caméra, d'accord? C'est bon, Marion, je lance?
Ouais, c'est bon, tu peux lancer.
Aka.
Aka.
Idi.
Idi.
Alors Marion, voilà, par rapport, pour rebondir sur cet extrait où on entend bien quand même ce qu'il se passe et dans le cadre de la recherche, est-ce que vous pouvez resituer d'abord l'extrait?
Alors dans l'extrait, en fait, on voit un petit exemple d'une des expériences qu'on fait où on enregistre la parole des personnes avec trisomie 21. Et puis ensuite, là-dessus, on fait des analyses du signal acoustique, ce qui nous permet d'avoir des informations, en fait, sur la façon dont les personnes avec trisomie 21 produisent des sons de parole. Donc ça nous permet de voir, par exemple, quelles sont les différences, là où il peut y avoir des problèmes, et ça peut donner des pistes ensuite, notamment pour les rééducations orthophoniques. Donc nous, ce qu'on a pu voir notamment dans des résultats préliminaires de nos analyses, c'est que ce qui ressort beaucoup, c'est l'énorme variabilité qu'il peut y avoir dans les caractéristiques articulatoires et acoustiques des voyelles produites par les personnes avec trisomie 21. Donc ça, par exemple, évidemment, on sait que ça va avoir des conséquences sur leur intelligibilité. Et justement, quand on fait des tests perceptifs, derrière, où on demande simplement à des personnes tout venant de percevoir, de nous dire ce qu'ils perçoivent de la parole de personnes avec trisomie 21. Eh ben, nous, ce qui nous a intéressé, c'est par exemple de voir si la vision peut aider. On sait que c'est le cas pour les personnes tout venant. Tout le monde a déjà expérimenté le fait que quand on est dans une fête où il y a énormément de bruit, si on ne regarde pas notre interlocuteur, on a plus de mal à comprendre ce qu'il dit. Et donc là, justement, ce qu'on voit, c'est que dans ces tests, on voit que le fait de voir, de regarder le locuteur avec trisomie 21 permet de compenser au moins en partie le déficit d'intelligibilité. C'est-à-dire que quand on voit la personne, l'écart entre le seuil, l'intelligibilité d'une personne avec trisomie et 21 et d'une personne tout venant est plus petit que si on entend juste le son. Or, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que des fois on a du mal à regarder ces personnes parce qu'on se sent un peu gêné, etc. Non, justement, pour mieux les comprendre, il faut les regarder puisque c'est ce qui permet de mieux les comprendre. Voilà.
Nous, à la radio, on a ce déficit-là.
Exactement.
Les gens nous entendent, ils ne voient pas, on interagit avec notre corps aussi. Et donc, il est extrêmement important, et encore plus avec des personnes qui ont des spécificités, de vraiment prendre la globalité quand on discute avec quelqu'un. Parce que le nœud quand même de cette problématique, c'est qu'on a fait passer pour une déficience d'intelligence quelque chose qui relevait uniquement d'une capacité à communiquer qui est différente.
Alors, on peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de déficience intellectuelle.
Il y en a aussi, bien sûr.
Voilà. Ouais. Chez les personnes avec trisomie 21. Mais effectivement, comme, de façon assez habituel, comme on a tendance à inférer les capacités intellectuelles d'une personne sur la base de nos échanges communicatifs avec elle, de façon assez spontanée, voilà, sans penser à mal. Et là, bah, du fait que déjà, il y a une grosse différence des capacités de compréhension et de production chez les personnes avec trisomie 21, elles comprennent beaucoup mieux que ce qu'elles n'arrivent à s'exprimer. Et du coup, bah, si on infère leur capacité intellectuelle uniquement sur la base de nos échanges et de leur façon de nous parler, de leur possibilité de nous parler, bah, forcément, on va surestimer leur déficience intellectuelle.
Et alors, concrètement, puisque la recherche aboutit, même si c'est, Franck nous le rappelait tout à l'heure, c'est un début, ça va permettre effectivement aujourd'hui de développer beaucoup plus les capacités de communication avec les personnes trisomiques 21. Mais pour nos auditeurs qui écoutent, qui sont soit proches de personnes trisomiques 21, soit monsieur tout le monde qui aimerait juste, ou madame tout le monde, qui s'intéresse à la question, voilà. Quels résultats aujourd'hui vous pouvez commencer à apporter à nos auditeurs, à tout le monde, pour qu'on s'améliore, pour que tout à chacun puisse communiquer de meilleure façon avec ces personnes-là?
Il y a ce que je disais avant sur le fait de bien regarder les personnes, sur le fait de leur laisser plus de temps.
Ouais, ce que je voulais dire, aussi c'est sur quel support? Parce que du coup, là, on a énoncé, on a donné des exemples, mais alors comment on fait concrètement pour trouver ces solutions, ces débuts de solutions en tout cas?
Alors justement, effectivement, dans l'axe communiquer, c'est échanger dont parlait Amélie tout à l'heure, le but c'était vraiment de rendre accessibles à la fois les recherches existantes et nos propres recherches aux personnes concernées, à leurs familles, aux professionnels, aux acteurs de terrain de façon générale. Et donc, comme l'expliquait Amélie tout à l'heure, notre travail au début s'est vraiment plongé dans le fait d'informer les gens qui allaient participer à la recherche, de faire des supports de communication pour leur expliquer la recherche. Donc ça, on a beaucoup travaillé, notamment avec une graphiste, etc., qui nous a aidés à faire des supports. On s'est basé aussi sur du travail existant. On a nous-mêmes développé des choses en collaboration avec les personnes elles-mêmes qui ont participé à l'élaboration de ces supports. Donc il y a certaines choses qui sont déjà disponibles sur notre site internet, qui est www.communiquonsensemble.com, où on peut trouver certains de ces supports, certains autres qui sont encore en cours de finalisation. Donc on a aussi beaucoup échangé avec les familles au travers de conférences, également avec les professionnels, notamment les éducateurs qui s'occupent de ces personnes, mais aussi les orthophonistes. Voilà, peut-être.
En fait, on est en train. C'est parce qu'en fait, le projet est terminé maintenant, mais pas complètement. En fait, on a demandé un petit délai parce que un des gros délivrables du projet, c'était de créer un petit film d'animation, donc qui durerait qui soit très court, 2 minutes à peu près, que les personnes avec trisomie 21 puissent utiliser, par exemple, sur leur téléphone portable ou sur une tablette, pour montrer aux gens rapidement, où ça pourrait être aussi utilisé dans les maternelles ou n'importe où il y a un enfant, une personne avec trisomie 21, pour expliquer un peu par rapport à la recherche existante qui a été faite ailleurs, qui a été faite par nous, quelles sont les difficultés de ces personnes et comment il faut réagir pour les aider à communiquer. Donc ça, on est en train de travailler avec
courant février.
Ouais, fin février, oui, on va dire fin février.
Voilà, on nous dit souvent que la recherche, c'est abstrait. Eh bien, pas dans le cadre des recherches de la FIRA.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Que tu connais d'autres gestes avec tes mains?
Ben, carotte.
Ouais.
Carotte, chocolat. Et c'est salade.
Ouais.
Vête.
Ouais.
Et après, maison. Papa, maman. Voilà.
Voilà, c'était encore un extrait d'un petit film qui a été réalisé pour raconter un petit peu, pour raconter beaucoup d'ailleurs, la recherche dont nous parlons aujourd'hui dans Recherche et Partage. Des films que vous pouvez retrouver sur les sites de la FIRA ou le site communiquonsensemble.com, puisqu'évidemment la radio, c'est pas forcément évident de comprendre tout ce qui s'y passe. Cela dit, dans ces extraits, même très courts, on entend particulièrement bien et on imagine les corps qui interagissent, l'importance de la gestuelle, et je trouve que ça s'entend extrêmement bien. Alors, on est toujours avec Marion, Amélie, Franck et Sophie. Franck, un mot peut-être de résultats très concrets qui ont déjà commencé à concerner notamment les professionnels qui interviennent dans la vie des personnes avec porteuses de trisomie 21.
Alors, je crois que plutôt que de parler de bénéfices, on pourrait décrire ça comme une prise de conscience, c'est-à-dire que nos professionnels ou les familles également prennent conscience qu'il faut regarder la communication autrement si on veut effectivement faire progresser nos jeunes dans ce domaine en particulier. Et je pense que les travaux la communication sur les travaux, pardon, est très importante. Ce que vous faites là aujourd'hui est très important. Et on essaiera également de le relayer lors des Journées mondiales de la trisomie qui sont organisées par la RIST à Grenoble en 2017, donc au mois de mars. Et je donne rendez-vous à tous les auditeurs, qu'ils soient de Grenoble ou de Paris, ce jour-là, le 21 mars à Grenoble.
Un gros travail qui est fait avec les professionnels, mais aussi donc cette prise de conscience dont parlait Franck, mais une prise de conscience aussi pour les personnes atteintes de trisomie 21. Sophie, un mot là-dessus, ça a aussi changé le regard qu'elles avaient sur elles-mêmes, leur façon de communiquer ?
Oui, tout à fait. Je pense que cette étude où ils ont été complètement impliqués, on leur a posé des questions, on leur a demandé de s'exprimer sur ce qui leur posait des problèmes dans la communication. Je pense que c'était pour eux une prise de conscience aussi et pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ne comprenaient pas aussi. Et aujourd'hui, ils l'expriment, ils disent, voilà, je ne sais pas dire ou je n'y arrive pas, alors attends, je reformule. Et ça, c'est des choses qu'ils arrivent à dire. Donc je pense que c'est un point fort de cette étude, effectivement. Ouais.
Un point fort à découvrir, on l'a vu, il y a beaucoup d'outils qui vont être mis en ligne sur le site. Mm-hmm. Mais ça continue, du coup, ça continue vraiment pour la partie production et partage des résultats.
Alors ça continue, en fait, quand on a monté ce projet avec Marion, on savait qu'on avait 2 ans, on savait qu'en 2 ans, on avait un projet qui était très ambitieux et que nous, dans ces 2 ans, on allait essentiellement installer des bases et construire des bases solides pour quelque chose qui s'étalera dans le temps, voilà. Et du coup, là, ça continue, on va continuer à alimenter le site, on va continuer à participer à des événements, on va aussi continuer à faire des publications scientifiques, puisque les publications scientifiques prennent du temps, en fait, puisqu'il faut avoir des systèmes de revues par des pairs, donc du coup, ça prend du temps à rédiger, ça prend du temps à faire valider, etc. Donc ça, c'est la suite. On a une grosse partie du projet aussi qui a été de communiquer, en fait, de nous. Bon, on a communiqué avec les personnes actrices 2021, on a communiqué avec les familles. On a fait aussi beaucoup de communication, par exemple, le soir à 8h, à 21h, dans des réunions de professionnels, donc notamment d'orthophonistes, ou lors de formations, on a été invité dans des formations en macathon, par exemple. Donc, le macathon, c'est un système de communication qui est basé sur des signes manuels. Donc, en utilisant des gestes avec les mains, on peut aider les enfants avec trisomie 21 à mieux apprendre la parole, à mieux apprendre à communiquer, mais aussi à mieux apprendre à parler. Et c'était un gros enjeu du projet dont on n'a pas trop parlé, mais qui était, en fait, on sait depuis très longtemps que le geste manuel peut aider les enfants à mieux apprendre à parler le langage. Les orthophonistes de la RIST ou d'ailleurs les utilisent déjà. Le problème, c'est que souvent, les parents ont peur, ou certains professionnels, que quand l'enfant utilise le geste, du coup, il abandonne la parole en se disant « Ah ben, le geste, ça va être plus facile pour lui, du coup, il parlera plus. » Et du coup, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, il y a des enfants qu'on empêche de s'exprimer par le geste pour en disant « Mais il n'est pas sourd, voilà, mais bon, c'est pas parce qu'on n'est pas sourd que c'est facile de parler pour autant. » Quand on a un conduit vocal qui n'est pas formé comme il faut, comme c'est le cas des personnes avec trisomie 21, ça peut être difficile de parler et on peut utiliser le geste. Donc, on avait toute cette partie-là. Un des enjeux pour nous, c'était d'une part de faire des recherches aussi pour montrer, ben oui, de manière objective, que le geste peut effectivement aider l'apprentissage de la parole et de conforter un peu aussi certains professionnels dans leur démarche déjà en place qui était d'utiliser le geste et de leur donner des arguments un peu objectifs aussi pour appuyer ça auprès des parents. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte aussi en participant à des événements où il y avait des familles, les gens venaient nous voir et disaient, mais moi, en fait, j'ai mon frère qui a une trisomie 21 et je comprenais pas pourquoi on utilisait le geste avec lui, Manuel, je comprenais pas. Parce qu'il n'est pas sourd. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point les gens sont pleins d'a priori. Et nous aussi, d'ailleurs, on est pleins d'a priori. On en était avec Marion quand on a commencé le projet. On a dû s'adapter, se remettre en cause, etc. Donc, un des gros enjeux du projet, c'était ça. Et ça, on va le continuer parce qu'on a vraiment l'impression avec Marion que quand on intervient auprès des familles, auprès des professionnels, auprès de nos collègues au laboratoire aussi, parce qu'on a fait aussi des présentations un peu à nos collègues qui travaillent sur des traitements du signal qui n'ont rien à voir, qui sont dans des domaines différents. Et on a toujours des retours très positifs des gens qui viennent en disant « Ah, mais en fait, j'y avais pas, enfin, j'aurais pas cru que c'était possible que, en changeant les comportements, en mettant en place des méthodes adaptées, ben ces personnes-là que je pensais qui je pensais avec des déficiences intellectuelles et du coup étaient un peu condamnées à pas évoluer, en fait arrivent à évoluer et à pas devenir complètement normal non plus, hein, c'est pas c'est pas ce qu'on dit, hein, mais du coup au moins en tout cas être mieux dans la société.
Mais c'est vrai, ce qui est fou et ce qu'on retrouve là, comme dans la plupart des recherches soutenues par la FIRA, c'est que finalement, bien au-delà des personnes trisomiques, tout le monde a besoin de réapprendre à communiquer et à se rendre compte que le geste, l'interaction du corps, enfin que c'est une globalité, que c'est pas uniquement la voix qui s'exprime. Est-ce que on a du mal, quand on mène ce genre de recherche, Marion, à un moment s'arrêter alors qu'il doit y avoir, on va dire, des sources inépuisables de découvertes, avoir envie de continuer, d'aller plus loin, parce qu'on sent que c'est extrêmement riche et que ça peut être extrêmement utile.
Ah oui, bah oui, bien sûr. Mais comme le disait Amélie, nous, notre objectif, ça n'a jamais été de s'arrêter au bout de 2 ans. Le but, c'est d'avoir déjà des bases, donc des premières études qui ont été menées, mais qui nécessitent encore d'être approfondies. On a des résultats préliminaires, par exemple, qui montrent bien que les enfants avec trisomie 21 apprennent mieux des nouveaux mots quand on leur apprend avec des gestes que quand on leur apprend juste avec le mot. Mais, par exemple, on ne sait pas pourquoi. On a certaines hypothèses, mais on veut encore les tester. Donc, voilà, de toute façon, la recherche, ça marche toujours comme ça. Effectivement, il y a ce mode de fonctionnement avec des projets financés, etc., qui vont donner lieu à des premiers résultats. Forcément, mais en général, les projets, ça dure beaucoup plus longtemps. On a besoin de beaucoup plus de temps pour explorer une question de façon satisfaisante. Voilà, on peut, enfin, nous, en tout cas, on n'a pas envie de se contenter juste de ce niveau un petit peu de surface qui, certes, nous pose des bases, qui, certes, nous encourage à aller plus loin, etc. Mais on a déjà plein de projets pour l'avenir. Et puis, voilà, on va continuer.
On va continuer pour le bien de tous. Est-ce que du côté de la RIST, on est aussi, j'allais dire, très satisfait ou on aimerait pousser les chercheuses à aller dans telle ou telle direction? Il y a encore des questions pour lesquelles on trouve qu'on ne sait pas encore quoi faire. Est-ce qu'en tant que parents, en tant que proches, on a des questionnements?
Bah, elles ont déjà exploré plein de pistes.
Donc ça y est, on est content qui...
Pas du tout.
Ah, il semble
pas
bien.
Du tout. Non, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elles arrivent à beaucoup plus motiver nos professionnels en les impliquant et en les accompagnant dans cette interaction qui, dans certains cas, peut être un stimulateur en termes d'apprentissage et qui n'a pas été suffisamment travaillé chez nous. On a des professionnels qui sont... difficiles à mobiliser et avec lesquels il n'est pas facile de faire progresser les techniques, donc ou tester simplement des techniques. C'est un peu français comme comportement.
Ouais, donc, Et justement, et d'ailleurs Amélie et Marion le disaient, il y a peu de recherches qui ont été faites dans ce domaine en France, donc au moins maintenant on a une recherche à partir de laquelle on peut discuter et sur laquelle les professionnels peuvent s'appuyer. On va redonner tout de suite le nom du site communiquonsensemble.com sur lequel vous êtes invités, auditeurs, simples Pékin, on va dire, ou professionnels du handicap. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux résultats de ces recherches. Et puis, il y en aura d'autres. Ça va être on va abonder les sites avec des publications, avec des films, avec un film d'animation peut-être à venir. Donc voilà, n'hésitez pas sur le site de la FIRA aussi, bien sûr, fira.org, vous pourrez retrouver tout ça. Et puis sur le site de la RIST, peut-être un lien au moins, en tout cas, vers les différents sites avec les résultats de la recherche. Merci à tous les quatre d'être venus en plateau avec nous aujourd'hui, ce midi. Et on a hâte de voir le film d'animation, de pouvoir partager et de faire avancer en tout cas la communication avec les personnes trisomiques. Merci. Et puis, Franck, tout à l'heure, vous donnez rendez-vous à Grenoble. Moi, je vous donne un autre rendez-vous. C'est le 21 mars à Paris, avec d'ailleurs peut-être nos amis de la RIST et nos amis chercheuses, pour la prochaine rencontre handicap, recherche et citoyenneté, donc le 21 mars à Paris, à l'auditorium de l'Hôtel de Ville. Les renseignements 01 43 12 19 21, je vous l'ai dit un peu vite, mais vous pouvez retrouver cela sur le site de Vivre FM, bien sûr, et vous serez à nouveau tous les bienvenus, comme chaque année, pour découvrir les projets de recherche soutenus et les partenaires. Et c'est vraiment une opportunité formidable de voir et de découvrir des projets de recherche appliqués qui se font dans le domaine du handicap pour que chacun retrouve une pleine citoyenneté, ce qui est le cas avec le projet dont on a parlé aujourd'hui. Merci encore à tous et bon week-end.
Merci.